Jésus au temple. Il y avait ceci. Maintenant, tu peux délier ton serviteur, maître suprême, selon ta parole événement, en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Voilà le terme de salut qui revient. Salut qui aime bien ce mot de salut, sauveur. Que tu apprêtas à la face de tous les peuples. Vous voyez l'universalisme. Lumière pour une révélation de nation et gloire de ton Père, peuple Israël. Nation et Israël. Les deux sont déjà là présents. Nous reviendrons tout à l'heure sur la prophétie à Marie. Donc voilà le rôle de Jean-Baptiste, c'est d'annoncer le salut de Dieu. Et pour l'expliquer, donc Isaïe 40, salut de Dieu, salut de Dieu pour tous, salut de Dieu pour tous. Et toute chair verra le salut de Dieu. Et puis, aux gens qui viennent le trouver, il fait un petit discours. Donc, Jean au Jourdain, le salut de Dieu, ça c'est pour indiquer ce qu'il est, selon la tradition d'Isaïe, plus discours. Et qu'est-ce qu'il raconte dans son discours? Il leur donne d'abord quelques petites épithètes, des noms doux, et tendres, engendre de vipère. Vous êtes des êtres doubles, comme on dit, les autres des gens ambigus, comme la langue de la vipère. Qui vous suggère de fuir la colère qui vient? Vous venez pour avoir, pour être sauvé là, pour avoir votre salut, pour avoir une carte de membre d'entrée dans le royaume. Qui vous a suggéré de fuir la colère qui va venir? Mais non, il faut passer par la colère. La colère de Dieu, c'est la manière dont il révèle que nous sommes en dehors de lui, que nous l'avons refusé, que nous l'avons brimé. Faites donc des fruits libres de la conversion. Ainsi, méprendre le langage d'un prophète. Et ne commencez pas par dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Nos parents avaient déjà la carte de membre. Et elle peut servir pour nous. Mais non, il ne s'agit pas d'une carte de membre. Vous êtes enfants d'Abraham, et bien soyez enfants d'Abraham. Vivez comme des enfants d'Abraham, c'est-à-dire laissez-vous porter par l'Esprit Saint. Car je vous dis que c'est de ces pierres, Dieu peut réveiller des enfants à Abraham. Et alors les gens demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, regardez ce que Jean-Baptiste dit, il dit ce que Jésus va dire à Pierre. Il y a deux tuniques qu'il partage. Première chose, partager. Il y a aussi les publicains, donc les gens qui aiment bien l'argent, qui disent, que faire? Eh bien, ne faites rien de plus, ne soutirez pas de l'argent aux personnes. Contentez-vous de ce que vous pouvez donner, d'un pourcentage qui vous permet de vivre, mais n'allez pas...
1250.
Il questionnait aussi les servants, des servants comme soldats, des gens qui ont le pouvoir, la puissance, et qui souvent rançonnaient les populations et les affamaient. Ne vexez personne, n'extorquez pas d'argent et soyez contents de vos soldes. Donc, la manière dont Jean-Baptiste ici, je salue uniquement, décrit une sorte de morale, une sorte de manière de vivre, c'est celle que Jésus va reprendre par après. Il va ajouter le pardon et la patience dans la persécution. Et le peuple attend, et tous débattaient au sujet de Jean, si peut-être il n'était pas le Christ. Voilà qui surgit, que surgit la parole d'Israël, qui attend un Messie, serait-il ce Messie?
De que devons-nous faire? Ça revient à la Pentecôte après le discours.
Exactement. Alors, il veut dire pas après, tout à fait. Que devons-nous faire? Ça va revenir. Vous allez voir comment ce que nous voyons ici va être repris dans les Actes des Apôtres. C'est justement ce que nous allons essayer de voir ensemble. Moi, je vous baptise d'eau, or il vient plus fort que moi, dont je ne suis pas suffisant pour détacher la courroie de ses sandales. Donc, Jean-Baptiste se situe par rapport au Messie. Il ne l'est pas. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Nous allons voir revenir cela précisément à la Pentecôte. L'appel à vanner est dans sa main pour purger son air et assembler le blé dans son grenier. Et la balle sera consumée dans le feu inextinguible. Ça, c'est une vieille image. C'est déjà le psaume premier. Et comme Saint-Luc ne nous raconte pas la mort de Jean-Baptiste, il suffit simplement qu'il nous en dise deux mots. Et ces deux mots sont très significatifs. Hérode le tétrarque, qui était sans cesse réprimandé par Jean-Baptiste, donc, au sujet d'Hérodiade, la femme de son père qu'il avait fait, et au sujet de toutes les choses méchantes qu'il avait faites. Hérode ajoute à ceci à toutes les autres qu'il mit Jean en prison. Intéressant. Intéressant. Le témoin se retrouve toujours en prison. Dans les Actes des Apôtres, c'est normal. Le témoin est d'une manière ou d'une autre quelque peu subversif. S'il caresse trop les gens dans le sens du poil, c'est qu'il est mauvais prophète, comme dirait Jérémie. S'il est bon prophète, il va certainement le tuer. C'est ce qui lui arrive. Mais vous voyez, il nous dit que Jean-Baptiste est prophète jusqu'au bout. Mais il nous annonce aussi que M. Paul va être aussi mis en prison. Et que M. Paul est de la même lignée. Il est aussi témoin. Ces mots qui reviennent, comme prison, par exemple, ou bien ici au sujet des Hérodiades, mais nous verrons qu'il y a encore des histoires tout à fait semblables avec d'autres personnages, ou Hérode Agrippa, notamment, et Hérodius. Les histoires ne sont pas terminées ici. Eh bien, il nous annonce de ces thèmes récurrents. Ça va venir. Ça veut dire que le projet de Dieu passe toujours à travers ce que l'homme lui donne. Et ce que l'homme lui donne, c'est malheureusement toujours la même chose. On dirait qu'il n'apprend pas par expérience. Et alors, il y a ceci d'extraordinaire. Or, il arriva, pendant que tout le peuple était baptisé, tout le peuple, c'est beaucoup, hein. C'est tout le peuple d'Israël, hein. C'est beaucoup. Pendant que tout le peuple était baptisé, comme Jésus aussi, le dernier de tous, hein, semble-t-il, Jésus aussi, avait été baptisé et était en train de prier, donc solidarité avec les hommes, baptisé. Donc Jésus manifeste sa solidarité, puisque c'est un baptême de conversion. Il manifeste sa solidarité avec les hommes, les pécheurs. Il était en train de prier. Il manifeste sa solidarité avec Dieu. La prière est ce qui nous rapproche de Dieu. Il nous dit à sa manière, Jésus comme médiateur. Et l'Esprit Saint descendit. Jésus, l'Esprit Saint. Nous allons voir combien tout cela va être repris dans les actes. L'Esprit Saint était toujours celui qui faisait parler tous les témoins. Zacharie, Siméon, Anne, hein, tout cela parlait, mu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent. Mais ici, sous un aspect corporel, je vous ai dit que pour Saint-Luc, l'Esprit Saint, c'était tangible. Donc, il ajoute sous un aspect corporel. Un Esprit Saint qu'on ne touche pas, c'est pas vrai. Hein, qu'on touche. Il faut que ça se manifeste, quoi, sinon il n'est pas là. Tout comme une colombe, la colombe symbolisant le peuple dans l'Ancien Testament, sur lui, et une voix arriva du ciel, « Toi, tu es mon fils le bien-aimé, en toi j'ai mis ma bienveillance. » Nous verrons au chapitre 9, quand on parlera de la transfiguration, qu'une voix arrive de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils le choisi, écoutez-le sans cesse. » Vous voyez la différence? C'est Saint-Luc. Hein. C'est Saint-Luc. Au baptême, toi, tu es mon fils. C'est adressé à Jésus. À la transfiguration, celui-ci est. C'est adressé à tout le monde. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui le représentent. Toi, tu es mon fils. Bien. Il y a une sorte de Pentecôte pour Jésus. Et puis, il y aura une découverte de qui est Jésus à la transfiguration. Nous y reviendrons. L'Esprit Saint est descendu. Il était déjà sur la Vierge Marie. Si vous voulez voir le passage, le voici. Donc, tu concevras et tu enfanteras un fils, tu appelleras son nom Jésus, sera grand et sera fils du Très-Haut, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et de son royaume il n'y aura pas de fin. Et Marie demanda comment cela sera-t-il, puisque d'homme je ne connais pas. L'ange répondit, l'Esprit Saint surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comme la puissance du Très-Haut couvrait de son ombre l'arche dans le désert, hein, dans le livre de l'Exode. C'est pourquoi celui qui est en train d'être engendré sera appelé fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. L'Esprit sur la Vierge Marie, l'Esprit est sur Jésus, et il ne faudra pas s'étonner de trouver dans les actes des apôtres différentes Pentecôtes. Les Pentecôtes ont déjà commencé. Hein. La toute première, c'est l'Annonciation. Et comment ils travaillent? Ils travaillent par thème récurrent, et donc nous allons insérer nos Pentecôtes dans ces Pentecôtes qui nous sont déjà explicitées. L'Évangile est dans les actes. Et Jésus était commençant d'environ 30 ans, étant fils comme on s'imaginait, Joseph, Élie, etc. Et il reprend toute la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. Il remonte au-delà d'Abraham, manifestant encore davantage l'universalité. Et alors il dit, il était fils d'Adam, fils de Dieu. C'est intéressant ça. Ça nous montre que le fils de Dieu passe à travers toutes les générations humaines. Et donc que, dans la mesure où nous sommes baptisés, nous devenons nous aussi ce fils de Dieu. Et nous avons à donner naissance à ce Fils de Dieu aujourd'hui. Donc ça nous met en route par le chemin du baptême. Nous découvrirons ce qu'est le baptême par les actes des apôtres. Mais il met déjà tout en œuvre pour que nous découvrions le projet de Dieu. Or Jésus, plein d'Esprit Saint. Ce terme est assez intéressant. Plein d'Esprit Saint. En 3.22, nous disons que l'Esprit Saint descendit sur un aspect corporel, et maintenant on nous dit Jésus plein d'Esprit Saint. Et cette parole, plein d'Esprit Saint, plein pneumatos, ne va être reprise que chez Étienne. Étienne plein d'Esprit Saint, vous retrouvez cela, attendez que je retrouve. Chapitre 7, je crois que c'est verset 50, si j'ai bonne mémoire, ou 54. Je crois que c'est dans cette prière-là. Étienne. 7. Voilà. 7.55. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Donc ceci est intéressant parce que ça va nous montrer que Étienne est comme une copie conforme de Jésus. Il est plein d'Esprit Saint comme Jésus était plein d'Esprit Saint. Et cette expression, vous la trouvez deux fois, telle qu'elle, sous la plume de Luc. Alors, est-ce qu'il est conscient de ça? Je ne sais pas s'il en est conscient, mais en tout cas, il a dit ça deux fois. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un peu pensé que cette expression ne revienne que deux fois dans l'histoire. Pour montrer Jésus au départ de son ministère et pour montrer Étienne à la fin de son ministère qui reprend celui de Jésus. C'est troublant quand on regarde les choses d'un peu près. Mais en même temps, c'est très riche. Donc vous avez... Allez, pour continuer notre affaire, Jean au Jourdain, plus un discours. Et vous avez Jésus au Jourdain, puis le baptême de Jésus. Et là, nous avons un discours de Dieu. Ce n'est pas un discours moral, hein, comme l'était celui de Jean-Baptiste. Juste discours de Dieu, discours du Père. Puisqu'il dit mon fils. Et on laisse tomber Jean, on l'a laissé en prison, comme je vous l'ai dit, on va le mettre en prison, voilà. Et on parle de Jésus le Fils, et puis on ajoute toute la généalogie qui remonte à Adam. Généalogie. Fils. Généalogie, généalogie, qui va jusqu'à Adam. Fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu comme l'était Adam. Adam est fils de Dieu comme est Jésus. Il y a des différences, sans aucun doute. Mais il y a aussi une ressemblance à travers ces différences. C'est-à-dire que Jésus, en quelque sorte, rend toute l'humanité filiale. Dit en termes de Saint Paul, nous sommes fils adoptifs dans le Fils. Le Fils de Dieu qui est Jésus. Or Jésus, plein d'Esprit Saint, retourna du Jourdain et il était mené par l'Esprit. Il ne faudra pas s'étonner que les disciples, sortant de la Pentecôte, soient menés eux aussi par l'Esprit. Et puis vous avez les tentations. Tentation dont Jésus est victorieux, comme vous le savez. Ces tentations ne sont pas n'importe lesquelles. Les tentations concernent d'abord les biens économiques, hein, le pain, qu'est-ce qui se mange. Ce sont les réalités concrètes, mais les premières. Les réalités, les premières, parce qu'on a, absolument besoin de pain pour vivre. Mais aussi, tout le système dans lequel nous vivons, le système de consommation, est un système économique. Les grands trusts sont économiques. Voilà les tentations. Il se trouve écrit, « Non de pain seul vivra l'homme. » Et puis on passe à la deuxième tentation, « C'est du pouvoir. Bon, » il y avait les biens économiques, c'est l'avoir. Bien, donc, pour le terme que je vous disais ce matin. Alors, l'autorité sur les royaumes de l'univers, ça c'est le pouvoir. Ça peut être Rome, mais ça peut être nous. Jésus répondit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Non pas le pouvoir, mais le service. Non pas l'avoir, mais la dépendance, l'obéissance à Dieu. Non pas le pouvoir, mais le service. Et puis alors, ici, c'est la tentation la plus difficile. Luc, par rapport à Matthieu, intervertit la deuxième et la troisième tentation. Et il termine par la tentation la plus subtile, qui est la tentation religieuse. C'est de faire de la religion un succès. Il l'amena vers Jérusalem, le plaça sur le fait du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, il faut éprouver cette filiation de Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en bas, car il est écrit, dans le psaume 91, un des anges
veilleront sur toi, et sur leurs mains ils t'enlèveront le peuple du nord, d'une pierre d'un pied. Mais Jésus n'entre pas dans une religion à succès, comme les gens d'Éphèse. Il se trouvait dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est très souvent mêlée à notre manière de vivre, même notre manière de vivre, notre religion. Et en épuisant toute tentation, nous dit Saint Luc, ça c'est aussi propre à lui, le diable se retira de lui jusqu'à un moment fixé. Et généralement, ce moment fixé, où on voit d'ailleurs reparaître, c'est à la Passion, le chapitre 22e, au moment de la dernière scène, où Satan redevient présent. Chapitre 22. Or Satan entra en Judas, l'appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et puis un peu plus loin, nous trouvons ceci. Quand Pierre dit que il va être
dans le verset.
Là, c'est 3. Je viens de citer le verset 3, 22, 3. Et maintenant, je cite un peu plus loin, le verset 30, plutôt 31. Simon, Simon, voici, le Satan a revendiqué de vous cribler comme le blé. Et moi, j'ai imploré au sujet de toi, afin que ta foi ne fasse pas défaut. Et une fois, quand tu seras retourné, c'est-à-dire converti, affermis tes frères. Pierre, évidemment, Seigneur, je suis prêt à faire route sans cesse avec toi, et en prison et à la mort. Il a déjà compris quelque chose.
Maintenant, comme témoin, il fallait qu'il finisse en prison aussi.
Je suis prêt. Celui-ci te dit, je te dis, Pierre, un coq ne donnera pas d'avoir aujourd'hui. Le coq est l'animal de la résurrection. Hein. Nous le savons, puisqu'il est sur nos églises. Pas l'idée de la résurrection. Un coq ne donnera pas d'avoir aujourd'hui avant que trois fois tu aies renié le connaître. Donc il faudra que la puissance de la résurrection traverse le péché de Pierre, comme celui de Judas. Mais oui, que tout est déjà en quelque sorte présent ici. Mais comme une prophétie, les tentations sont prophétiques. Elles sont, comme l'indique la citation du psaume, sont en quelque sorte une prière. Comprenez bien que les tentations nous viennent de l'Église primitive, du baptême dans l'Église primitive, et comme on le fait encore, en tout cas comme on devrait encore le faire, la nuit pascale, où les futurs baptisés sont d'abord une dernière fois catéchisés. On leur lit des grands passages dans l'Ancien Testament pour qu'ils découvrent l'histoire du salut dans l'histoire de l'Église et dans leur propre histoire. Et puis, on les invite à prendre un peu de recul par rapport à ces différentes tentations. Si tu es fils de Dieu, voilà à quoi tu t'engages, à passer à travers cette tentation de la part, du pouvoir et du religieux. Et Jésus retourna dans la puissance de l'Esprit, tiens, encore une fois, vers la Galilée. Et il vint à Nazareth. Ah, ceci c'est très important. Vous remarquez qu'on a laissé Jean de côté, et on s'occupe maintenant de du discours. Ah, voilà le discours. Il y a un petit discours de Dieu, un discours indicatif. Et maintenant, nous avons un discours de Jésus, qui fait pendant au discours de Jean-Baptiste, un discours de Jésus, qui est un discours programme à Nazareth.
Quand on avait vu Luc l'autre fois, tu avais souligné combien ces trois tentations revenaient dans tous les évangiles.
C'est ça. Il vient notamment dans le pater, il est repris comme antidote dans la triple demande du pater. Puis il revient dans les chapitres 14 à 17. De nouveau, comment la puissance de l'Esprit Saint est-elle présente dans nos difficultés, dans nos vicissitudes. Et puis il revient, et ça nous reviendrons là-dessus aussi, il revient d'une manière tout à fait particulière et essentielle dans les tentations de Jésus en croix.
Les controverses à Jérusalem.
Les controverses à Jérusalem, pareillement, tout à fait.
C'est déjà la même phrase, si tu es fils de Dieu, il dit également le mauvais larron, comme le dit Moïse, c'est la même parole.
Mais revenir au temps fixé.
Je suis aussi, je ne pouvais pas se souvenir de Cana, la Seine et Philippiens. En disant ceci, le démon sait quelque chose, il dit, on pourrait lui répondre, ça s'est déjà fait, ça se fera autrement et ça se fera à l'inverse. Ceci là, jette-toi en bas, mais c'est déjà fait, c'est l'incarnation. Change ses pierres en pain, ça se fera mais autrement que tu ne le penses. Et alors, tout genou fléchira devant le Christ, ça sera absolument l'inverse. Ce n'est pas Jésus qui va flécher le genou devant Satan, mais c'est absolument l'inverse. Donc, ça s'est déjà fait, ça se fera autrement, et ça se fera l'inverse.
On peut certainement le faire. Pour le moment, je reste enfermé dans Luc. Je ne vais pas voir chez les autres, on verra après. Mais je reste enfermé dans Luc, pourquoi ? Pour essayer de voir la cohérence. Et pour essayer de voir quelle vision d'Église il va nous donner à travers tout cela. Parce que c'est ça le propos. Et ça m'est venu surtout en revoyant les actes des apôtres. En voyant comment cette cohérence devient de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on avance. Ah mais je crois que nous sommes... Ah non, c'est Gartler. Gartler. Alors, je vais essayer de terminer ceci. Ce qui est intéressant ici, c'est que le texte qui est cité est de nouveau un texte d'Isaïe, mais 61 cette fois-ci. Bon, Jean-Baptiste est présenté par un texte d'Isaïe 40, annonce du retour d'exil. Jésus est présenté par Isaïe 61. Et nous allons voir de nouveau Isaïe 61, le troisième Isaïe, ça. Hein? Et nous allons voir de nouveau Isaïe 61 qui va venir à un moment très intéressant, c'est-à-dire dans le discours de Bethléem. Discours programme de Jésus à Nazareth. Discours programme. Une sorte de moralisant quand même un peu, hein? Ce qu'il faut faire. Enfin, il répond à une question. Discours de Jésus. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra selon qu'il était coutumier le jour du sabbat dans la synagogue. C'est comme ça que Paul, Pierre et Paul étaient rentrés. Ayant déroulé le rouleau, il trouva le lieu où se trouve écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. De nouveau, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À cause de quoi il m'a oint. Il s'appelle Messie. Messie, c'est celui qui a été oint. Donc il joue sur le mot. À cause de quoi il m'a oint, oui, moigni, si je veux parler suivant le texte, pour annoncer la bonne nouvelle à des pauvres. Annoncer la bonne nouvelle est un terme qui va revenir constamment dans les actes des apôtres. De moi, il a fait son envoyé pour proclamer à des captifs la liberté. À des aveugles le retour à la vue, pour envoyer des gens broyés en liberté. Intéressant de voir là, la notation de la liberté. Et proclamer un an d'accueil du Seigneur. L'an d'accueil du Seigneur, c'est d'abord et avant tout l'année jubilaire, hein, tous les 50 ans. Et donc c'était un changement. En 50 ans, on remettait les dettes. On libérait les esclaves, on recommençait à zéro. On rendait aux familles les terres qui avaient été prises parce qu'on ne pouvait pas payer. Donc c'est un renouvellement.
Il le faisait pour de bon, ça ?
Pardon ?
Il le faisait pour de bon, libérer les esclaves et tout ça.
Je n'en sais rien.
En principe.
Oui, là vous trouvez une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle controverse. C'est la loi deutéronomique. La loi du jubilé et la loi du deutéronome. Alors, certains disent, bon, cette loi était, en tout cas par certains, observée. D'autres disent que c'était uniquement une loi utopique. Deutéronome, loi utopique. Alors, nous n'avons que deux allusions. Une en Jérémie et une, je crois que c'est dans les Maccabées, si j'ai bonne mémoire, deux allusions où quelque chose a été fait dans ce sens. On parle justement de la vie. On parle davantage, et Flavius Joseph le fait aussi, d'années sabbatiques, où quelque chose du genre se faisait. Je dis quelque chose du genre. Je ne sais pas jusqu'où ça allait. Mais c'était la proposition. C'est la proposition. Mais c'est déjà intéressant que ça soit une proposition, même si elle n'était pas vraiment observée. Ça veut dire qu'on songeait quand même à cette loi idéale. Ne me demandez pas dans quelle mesure elle a été observée, parce que ça n'est pas dit.
C'est comme dans l'année d'enfant ou quelque chose comme ça. L'année.
Sauf que là, ça revenait dans la
tradition. Oui, mais c'était quand même tous les 50 ans. Alors, aux années sabbatiques, donc tous les 7 ans, normalement, on devait laisser la terre en jachère, ou en tout cas une partie, c'est comme ça que souvent c'était expliqué, une partie de terre en jachère. C'est-à-dire que tout ce que cette terre produisait, elle-même, était pour les pauvres. Et puis ça s'est passé à une sorte de tarification où on donnait la dîme aux pauvres. Mais quelque chose a quand même subsisté de cela, même si elles n'ont pas été observées à la lettre. En tout cas, ça a le mérite d'exister, ne fût-ce que comme idéal. Vous savez que Léo Moulin dit toujours que la meilleure charte, c'est un agnostique, dit toujours que la meilleure charte de l'Europe devrait être la règle de Saint-Benoît. Parce qu'il dit que la règle de Saint-Benoît, c'est la parfaite règle qui devrait, comment dirais-je, organiser toute démocratie qui se respecte. Et évidemment, ce qui manque à nos règles, évidemment, c'est de mettre au débat, un, le Dieu unique, et deux, la fraternité, avec chacune et chacun, et donc l'hospitalité. Ben voilà. Ayant roulé le rouleau, l'ayant rendu à l'homme de service, il s'assit. C'est-à-dire qu'il va expliquer. Il va expliquer son discours programme qui est repris, qui est emprunté à Isaïe. Et vous remarquerez que quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il reprend évidemment les paroles d'Isaïe. Mais en même temps, il les actualise. Et chose extraordinaire, il s'efface derrière la parole d'Isaïe. Pour dire ce qu'il est, il ne le dit pas à partir de lui-même, il le dit à partir d'Isaïe.
Dans Saint Jean aussi, dans les contes, Jésus s'efface.
Tout à fait.
Derrière les paroles et derrière les œuvres.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est la même théologie, hein. Ayant roulé le rouleau, il commence à dire à leur adresse, on doit tous les commencer. Aujourd'hui se trouve accomplie cette écriture à vos oreilles. Et vous avez tous, hein, dans la tête, aujourd'hui il vous est né un sauveur. Il vous fut enfanté aujourd'hui, c'est chapitre 2, verset 11, les anges. Aujourd'hui il vous fut enfanté un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans une ville de David. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit, cette écriture s'accomplit en vos oreilles. Cet aujourd'hui est extrêmement important dans Luc. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, le salut est arrivé à cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Sachez, chapitre 19. Aujourd'hui, avec l'actualité de la parole, aujourd'hui se trouve accomplie cette écriture en vos oreilles. Donc quand je lis, moi, Théophile, cette écriture aujourd'hui,
je découvre la libération que Dieu, par Jésus, opère dans ma vie et doit opérer par moi dans le monde, si je suis fils de Dieu. Et tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient des paroles de la grâce, vous voyez, des paroles de la grâce qui s'en allaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-il pas fils de Joseph celui-ci? Jusqu'ici, on peut comprendre, surtout si on a lu Marc et Matthieu. Mais c'est à lui que va tirer autre chose de ce verset. N'est-il pas fils de Joseph celui-ci? Et Jésus dévoile la pensée. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui, fils de Joseph? On le connaît bien, on connaît ses parents. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Pourtant, il s'étonnait des paroles de la grâce qui sont comme ça. Vous, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par l'image qui se font de Jésus. Fils de Joseph. Fils de Joseph ou fils de Dieu? Qu'est-ce que nous sommes, finalement? Fils de Joseph ou fils de Dieu? Certainement, vous me direz cette parabole, mais ça va être toi-même. Tout ce que nous avons entendu qui va arriver à Capharnaüm, fait le ici dans ta patrie. On n'a pas encore vu Capharnaüm. Effectivement, Capharnaüm vient après. Et il fait un petit clin d'œil. Il sait bien, hein, Saint-Luc, que ce n'est pas le début de la mission de Jésus. Il sait très bien. Il a déjà travaillé à Capharnaüm et tout au bord du lac. Mais il lui plaît à lui, ça c'est tout à fait Saint-Luc. Il lui plaît à lui de mettre ce discours à Nazareth comme étant programmatique. Il me dit bien sûr qu'il y a des trucs qui se font passer à Capharnaüm. Oui, mais Capharnaüm, c'était les païens. Hein. Nazareth, ce sont les gens bien, les juifs. Ah, tout ce que tu as fait pour les païens, fais-le un peu pour nous aussi, pour les juifs. Et la controverse qui va venir à Antioche et à Jérusalem. Nous sommes les privilégiés, les fils de la maison. Pourquoi ne vas-tu t'occuper d'abord des païens, de ces païens qui apparaissent?
Ego volk eerst.
Ah non?
En flamand, ego volk eerst. Le propre peuple d'abord.
C'est ça. Tout ce que nous avons entendu arriver à Capharnaüm, c'est aussi dans ta patrie. Et Jésus leur dit, amen, je vous dis, aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. C'est vrai qu'aucun prophète, les prophètes se sont venus retrouver en prison. Hein. Or, je vous dis, il y avait de nombreuses veuves, les jours d'Élie en Israël, quand le ciel fut fermé durant 3 années et 6 mois, lorsqu'arriva une grande famine sur toute la terre, et auprès d'aucune d'elles ne fut mandé Élie, sinon en Sarepta, à Sidon, une païenne. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, lors d'Élisée, le prophète. Et pourtant, à aucune d'entre eux, et aucun d'eux ne fut purifié, sinon Naaman le Syrien.
Un païen.
Élie, Élisée, vous avez compris, hein? Jean-Baptiste, Jésus. Et ils sont pour tous. Comme l'avait dit d'ailleurs Siméon. Lui est pour une révélation de nation et gloire de ton peuple Israël. Mais les gens de Nazareth veulent accaparer Jésus, comme nous d'ailleurs, hein. Le mobiliser. Il n'y a que la manière dont nous le voyons qui est la bonne. Et ça, c'est un Luc qui nous manifeste constamment que l'Esprit Saint est présent partout où il veut. Et pas, pas seulement où nous le mettons. Et ils furent remplis de fureur. Vous voyez, on s'étonne des paroles de la grâce, et puis on est rempli de fureur. Vous comprenez, hein? C'est déjà la situation qu'on va voir à Jérusalem, lors de la passion de Jésus. On l'accueille, parce qu'il parle bien, et puis quelques jours après, on croit qu'il soit crucifié. C'est déjà la prophétie de Siméon qui commence à se réaliser. Vous voyez combien ce discours est tout à fait programmatique,
de l'œuvre de Jésus, de son ministère. C'est un ministère de libération, mais en même temps, ce ministère de libération va être battu en brèche et constamment, l'opposition va se faire jour contre lui. Il fut rempli de fureur dans la synagogue en entendant ceci, et s'étant dressé, ils le jetèrent dehors, hors de la ville, comme il va être crucifié hors de la ville, et comme Étienne va être lapidé hors de la ville, de nouveau, c'est un récurrent, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle la ville se trouvait bâtie, pour le précipiter en bas. Et lui, ayant traversé au milieu d'eux, faisait route. Voilà, le ressuscité qui passe à travers la mort. Vous allez voir Paul, chapitre 14, à Lystre, lapidé, et se relever et faire route. Voyez comment cette thématique que Saint-Luc nous inculque dès le départ devient significative, mais dans la mesure où on ne lit pas ceci comme une anecdote, mais on lit, on relit, on prend un texte, on revoit l'autre, etc. On lit Évangile et Actes constamment l'un dans l'autre. Il faut des années pour cela. Et puis vers Capharnaüm.
Bon, lapidé, c'était 14.
14 euros. Je n'ai pas tout par cœur, hein.
19.
Pardon? 19, c'est ça. Le traîné hors de la ville. S'imaginant qu'il se trouvait mort, ou comme les disciples l'avaient encerclé, s'est endressé. C'est-à-dire étant ressuscité, c'est le même mot. S'est endressé, il entra dans la ville. Et le lendemain, il sortit avec Barnabas et Herbé. Voilà. On ne nous dit pas s'il a eu un peu de longue convalescence, etc. Les apocryphes, nous racontent qu'il a été en convalescence à Tarse, qui n'était pas très loin. Voilà. Mais ça, c'est la petite histoire. Luc se fit pas mal de cette petite histoire. Mais donc, il voit un signe de résurrection. Donc, ça, c'est encore un des thèmes récurrents. Et puis, alors, il vient à Capharnaüm. Autrement dit, après avoir été en Israël, et Jésus se consacrera constamment à Israël, il n'ira pas plus loin, mais prophétiquement, il ira à Capharnaüm, qui symbolise déjà les nations. À Capharnaüm, ville de Galilée, où il a enseigné durant les sabbats, et donc, il va dans la synagogue, il y avait un homme ayant un esprit de démon impur, voilà les tentations qui commencent. Il s'écria d'une voix grande, « Que me veux-tu, Jésus, le Nazarénien ? Viens-tu nous perdre ? Je sais toi qui tu es, le Saint de Dieu. » Les démons sont souvent plus perspicaces que les croyants. Jésus le raboua en disant, « Sois muselé, sors de lui. » Et le démon, l'ayant précipité au milieu, sortit de lui, ne lui ayant mis en rien. Il montre que la délivrance des captifs, dont il a parlé, advient déjà. Et arriva une frayeur sur tous, et ils parlaient ensemble à l'adresse des uns des autres en disant, qu'est cette parole d'autorité et de puissance? Il commande aux esprits impurs et ils sortent. Or, s'étant dressé de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. On passe de la synagogue à ce qui va être appelé la maison de Simon, c'est-à-dire la maison de Pierre, l'église. Et alors la belle-mère de Simon était accablée par une fièvre, et on l'interpelle à ce sujet, étant survenu, il raboie la fièvre, elle la laissa, et s'étant dressée subitement, elle aussi, elle les servait. Et comme le soleil s'enfonçait, tous autant qu'ils avaient des gens qui étaient faibles, de maladies variées, ils les menèrent auprès de lui. Et celui-ci, à tout un chacun imposant les mains, les soignait. Il ne faut pas confondre soigner et guérir. Hein. dans l'évangile de Matthieu, mais j'avais confondu les deux. On l'a fait remarquer que thérapeuin n'est pas yaomai, yastai. C'est vrai. Guérir, c'est guérir souvent de manière instantanée, immédiate. Et soigner, c'est prendre en charge. Il faut parfois des années pour prendre en charge, pour soigner quelqu'un. Parfois 20, 30 ans. Hein. Et quand il utilise soigner, j'ai remarqué que Matthieu n'utilise presque jamais le terme guérir. La plupart du temps, c'est thérapeutique. Donc, assumer une maladie, une difficulté avec une personne. Mais voyez, ça c'est la libération qui est exprimée ici. Et alors qu'à Nazareth, il n'y a, semble-t-il, pas de libération qui est faite, qui est opérée, à Capharnaüm, il y en a. Et ça, de nouveau, c'est une des constantes chez Luc. Il va nous montrer que l'empressement est parfois beaucoup plus immédiat chez des païens que chez les juifs. Les juifs sont en quelque sorte sur la réserve. Il sortait des démons de beaucoup chaque fois qu'il poussait des cris en disant « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Donc il est reconnu. Il est reconnu par des non-juifs. Et il n'est pas reconnu par les gens de Nazareth. Il ne leur permettait pas de parler longuement parce qu'ils savaient que lui était le Christ. Mais le savoir ou en faire l'expérience, ce sont deux choses différentes. Et comme était arrivé le jour, étant sorti, il s'y route vers un lieu désert. Les foules le recherchaient, ils vinrent jusqu'à lui. Et elles le retenaient pour qu'il ne fasse pas route loin d'eux. Or, il leur dit, aux autres villes aussi, il leur faut annoncer la bonne nouvelle.